Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis.
Voilà, elle est sans surprise, cette émission Leader et Manager. Je l'ai annoncé au début de notre tranche, l'espace où nous recevons celles ou ceux qui, par leur vision, leur engagement et leur sens des services, transforment la société congolaise. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un acteur clé du monde éducatif, le président de professeurs catholiques de la République démocratique du Congo, à la tête d'une institution qui regroupe des milliers d'enseignants engagés dans la mission éducative de l'Église. Donc, il joue un rôle essentiel. Nous sommes avec lui en direct, le professeur Simo Kidiomboko. Bonjour.
Bonjour, bonjour papa, bonjour mon frère. Bonjour.
Corrigez-moi si j'ai.
Bonjour,
Kidiamboko.
Oui, effectivement, c'est Simo Kidiamboko.
Voilà, merci beaucoup. Je suis en face des deux Simo et c'est lui le permanent de ces missions. Là, il faut tirer les chapeaux parce que M. Simo Mbosso joue vraiment les rôles d'un leader. En tout cas, il ne veut pas rester seul. Et de temps en temps, il invite les gens pour éclairer nos lanternes. En tout cas, chapeau bas à vous, M. Simo, pour ces marques de leadership et management. On vous salue. Bonjour.
Merci, Bob. Merci. Bonjour à nos auditeurs, auditrices et internautes. Et merci au professeur Simo Kidiamboko qui a accepté notre invitation.
Voilà. Avec lui, nous allons parler des mouvements des professeurs catholiques en République démocratique du Congo.
Oui, mais on va commencer par le présenter. Oui. Hein, le professeur Simo Kidiamboko, il est ingénieur électronicien et docteur en sciences informatiques. Je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas spécialiste de systèmes intelligents. Il va lui-même le préciser.
Ok, merci. Merci. Quand deux Simons se rencontrent, ça signifie que c'est la complémentarité. Oui, alors, le collègue Simon Mbosso l'a dit, je suis de formation ingénieur électronicien, c'est-à-dire que j'ai fait le graduat, la licence à l'ISTA en électronique industrielle. Et Dieu m'a donné permis que je sorte du pays pour un troisième cycle, et là je l'ai fait pour être précis avec les dénominations. Je suis donc PhD, docteur, dans les systèmes artificiels intelligents. Et quand on dit système artificiel intelligent, c'est ce que le commun des mortels appelle intelligence artificielle.
Merci beaucoup.
Il est professeur à l'ISTA et à l'Université catholique au Congo.
Voilà. En passant, nous saluons aussi la sœur Samopamba qui, de temps en temps, vient aussi. Et les professeurs Bob Omo, hier d'ailleurs, on a échangé avec lui. Bonjour Andy. Allez, on va mettre les pieds dans le plat pour parler de votre mouvement, le mouvement des professeurs catholiques en République démocratique du Congo. D'abord, nous allons vous accorder la parole pour nous parler de ces mouvements des professeurs catholiques en République démocratique du Congo. Et le deuxième volet, ça sera avec les auditeurs pour poser quelques questions parce que vous avez une certaine responsabilité. Alors, je ne vais pas d'abord vous déranger au début, je vous laisse nous parler de votre mouvement.
Merci Bob. Je salue en passant la révérende sœur Odette Sangupamba qui est ma doyenne à l'UCC à la faculté de sciences informatiques. C'est vrai, je suis, pour mieux me présenter, je dirais que je suis chrétien catholique. Chrétien catholique, dans ma paroisse Marie-Reine des Apôtres, je suis Moyangege d'une CVB qui s'appelle Bolingweleki. Et là également, je suis le président du conseil paroissial, de la commission paroissiale des CVB. Au décanat, je suis conseiller à la commission décanale CVB. Là, nous parlons du doyenné Nodassa, la sagesse. Je suis, comme vous l'avez dit, le président du comité diocésain du mouvement des professeurs catholiques. Ce mouvement n'est pas encore national, il est diocésain. Il est donc à l'archidiocèse de Kinshasa. Le mouvement des professeurs catholiques, en sigle MPC, est un mouvement qui a été fondé en 1987 par Monseigneur Maurice Plevout. À l'époque, on l'appelait le chanoine. Paix à son âme.
Parce que c'est secrétaire général académique quand j'étais étudiant.
Et voilà.
Cité
voilà.
Le Vagnon.
C'est lui qui a signé mon attestation de réussite. Vraiment, paix à son âme.
Paix à son âme. C'est en 2020, comme tout le monde le sait, qu'il nous a quittés. Alors, ce mouvement, fondé en 1987, a connu la contribution de quelques évêques, entre autres Monseigneur Boulamatari et d'autres encore, qui l'ont accompagné. Et au début, il a fonctionné, parce que c'est là où il a commencé, il a pris naissance à la paroisse Nodassa. Et plusieurs comités diocésains se sont succédés. Le premier, c'est avec le doyen professeur, son nom.
Ça va venir.
Ça va venir. Et puis après, il y a eu d'autres présidents du comité. Et nous avons remplacé le comité du professeur Bongo Passi. Chikou, voilà, le tout premier, le professeur, le doyen Chikou. Et nous avons placé le comité du professeur Bongo Passi. Là, nous sommes en 2019. Oui, je parle avec amertume parce que je vois les choses, comment elles se sont passées en présence de Monseigneur Maurice Prévout qui nous a quittés. Nous sommes en novembre 2019. Au cours d'une assemblée générale tenue à l'UCC, où j'ai été élu président du comité diocésain. Et en novembre, je suis élu. Le dimanche qui suivait, je n'ai plus la date en tête, le dimanche qui suivait les élections, il me reçoit dans son bureau à Telem, à l'UNIKIN. Le mardi, il fait une chute devant l'église Nodassa, et c'est ce qui l'a amené aux cliniques universitaires en Occident, en Belgique, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Il y a des choses qu'il m'avait recommandées, et je crois que je suis parmi les derniers à avoir parlé avec Mgr Plevout. C'est quoi le mouvement des professeurs catholiques? Mgr Plevout, comme venait de le dire le collègue Mbosso, est venu au Congo et a occupé des responsabilités jusqu'au secrétariat général académique de l'UNIKIN. Il a eu à comprendre le fonctionnement du Congolais et il a découvert qu'il y avait des défis qu'il fallait relever. Parmi ces défis, dans une parenthèse, Son éminence, le cardinal, je me rappelle, dans l'homélie qu'il avait présidée au cours d'une messe à Nodassa, avait dit qu'il y a plusieurs fois dans ces institutions. En fait, quand il parlait de plusieurs fois dans ces institutions, il faisait allusion à la prolifération des sectes. Les fois, il y en a plusieurs, effectivement, nous le savons, qu'on qualifie parfois des sciences occultes, culte, des choses comme ça. Et donc, les milieux universitaires, plutôt que d'être des milieux du savoir où l'on transmet la connaissance sur le plan scientifique dans divers domaines, il y a également ce venin de ces autres sciences-là qu'on appelle des sciences exotériques. Mgr Plevout avait vu ça. C'est comme ça qu'il a pensé qu'il fallait absolument préparer les enseignants catholiques dans ces milieux à faire face à la prolifération de cet esprit. L'objectif principal du MPC, c'est l'évangélisation en milieu universitaire. Évangélisation en milieu universitaire, c'est la transmission de la parole de Dieu, de sorte que les apprenants, aujourd'hui nous sommes en LMD, on parle des apprenants, autrefois les étudiants, une fois sensibilisés sur les biens et le mal dans ce domaine, pourraient être vigilants et se concentrer sur les études, mais dans la bonne direction. Laquelle est la bonne direction ? C'est la direction de l'Évangile. C'est que la parole de Dieu nous recommande de faire. Ça, c'est donc l'objectif premier du MPC. Cette évangélisation qui se ferait dans les milieux universitaires aurait des impacts même dans la vie sociale, professionnelle. En d'autres termes, dans nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire, il y a plusieurs disciplines. C'est là où l'on forme des médecins, où on forme des ingénieurs, on forme des juristes, ainsi de suite. Et si l'homme est préparé correctement dans la direction des recommandations de Dieu, même dans la vie professionnelle, cet esprit va demeurer, va rayonner. De sorte que le travail à faire dans ces milieux professionnels profite à l'être humain tel que Dieu l'a voulu. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Dieu a créé l'homme avec la recommandation que nous connaissons. Aimez-vous, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et donc, les ressources humaines seraient formées sur les deux dimensions et correctement seraient des acteurs du développement de notre pays. Le travail a commencé à être fait, comme je vous l'ai dit, en 1987 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le MPC est organisé en Assemblée générale, le comité diocésain et les sections. Section, ça signifie que dans chaque institution d'enseignement supérieur et universitaire, le rêve est que l'on ait une section MPC. Il y en a des sections qui ont été créées et qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui se sont refroidies et d'autres sont en gestation. Le souhait, le rêve est de redynamiser les sections qui fonctionnent encore et en créer d'autres. C'est le travail que nous sommes en train de faire à ce jour. Ce 29 novembre, nous aurons la deuxième et dernière assemblée générale du mouvement qui sera précédée par une messe qui sera célébrée par son éminence, le cardinal. C'est l'occasion pour nous de lui dire merci pour avoir dégagé dans son agenda un temps pour cette visite pastorale. Et au cours de cette assemblée générale, nous aborderons, d'abord nous ferons un rapport, le rapport d'activité de l'année 2025 et également il y aura une projection dans le cadre du plan pastoral pour l'année 2026. Le MPC, comme je l'ai dit, pour l'instant, il est diocésain. Le rêve est qu'il devienne national et pourquoi pas international. Parce que Monseigneur Prévôt, c'est le fondateur, l'encadreur spirituel que nous avions, il n'est plus. Comme je le disais, nous voulons que le MPC puisse rayonner dans le pays et pourquoi pas en international. Et ça, on y arrivera qu'avec une franche collaboration et un respect de nos engagements à servir le mouvement, c'est vrai le mouvement, mais aussi notre nation. Je crois que je peux m'arrêter là pour l'instant. S'il y aura des questions précisantes, je pourrais
Voilà. Merci beaucoup à vous, professeur Simon Kidiamboko, pour cette première partie de l'émission. C'est la partie magistrale. Nous parlons du mouvement des professeurs catholiques en République démocratique du Congo, MPC. Nous allons rentrer de l'autre côté de la technique où Radis Moussanda va nous proposer un morceau de musique avant de revenir pour vous poser quelques questions. Nous rappelons le numéro 081-99-66-098. 081-99-66-098. C'est le numéro pour participer à cette émission Leader et Manager en direct. Bien sûr, c'est jeudi 27 novembre 2025. Radis.
Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. À celui qui déploie l'effort, donnant un juste revenu, me vendiquer, ce n'est pas un tort. Lorsque l'homme s'est bien tenu, le travail nous libérera, la justice se brisera, le travail nous libérera. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, du temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice, quel que soit le lieu, le sol. La vie chasseur enlève au rien, même au fond des géants, nous ferons triompher le bien. Travaillons, nous vaincrons le temps de nos cœurs.
Un bon morceau de Roméo, hymne de travailleur. Merci à toi, cher Radis Moussanda, de l'autre côté de la technique. Nous sommes en direct et nous parlons de ce mouvement des professeurs catholiques en République démocratique du Congo avec notre invité, le professeur Simo Kidiamboko, président diocésain. Cher président, j'aimerais vous poser deux questions. Je rappelle encore le numéro pour participer à cette émission, 081-99-66-098. 081-99-66-098. Vous venez de le dire, votre mouvement n'est pas national, mais qu'est-ce qui empêche le MPC de devenir un mouvement national? Là, c'est la première question. La deuxième question, comment se fait la collaboration avec des structures ecclésiales, diocèses, paroisses, congrégations?
Merci, monsieur le journaliste, pour la première question. Je vais y revenir, mais je crois que tout à l'heure, j'ai annoncé que ce 29 novembre,
vous aurez une assemblée.
Nous aurons notre assemblée générale, la deuxième assemblée générale ordinaire pour l'année 2025, c'est pour clôturer l'année 2025. Et cette assemblée générale se tiendra à l'UCC, le site de l'IMETE.
Ok.
J'avais dit qu'elle sera précédée par une messe, sera célébrée par son éminence le cardinal. Et la messe, ça sera à 9h30. En fait, pour synthétiser le programme, 9h30, la messe d'ouverture de l'Assemblée Générale. Je crois que ça pourra nous prendre 1h30. Vers 11h, nous aurons une pause, rafraîchissement. Et après, nous entrerons en Assemblée Générale. Alors, pour répondre à votre question, le défi, c'est arriver à faire du MPC un mouvement national plutôt que de continuer à demeurer diocésain. Comme qui dirait que l'on fonctionnerait en fonction, depuis ce temps, on fonctionne en vase clos. Le vase clos, ça signifie l'archidiocèse de Kinshasa. Mm-hmm. En réalité, il n'y a pas énormément de contraintes. Si ce n'est que nous organisons d'abord en interne correctement Et ça, c'est le travail qui est en train d'être fait pour que le mouvement soit bien assis d'abord, je dis bien bien assis au niveau de l'archidiocèse avant d'envisager aller sur le plan national. Des contacts ont déjà été pris pour qu'on y arrive. Si à l'Assemblée générale ordinaire du 29, nous n'aborderons pas cet aspect, quand je dis nous ne l'aborderons pas, c'est-à-dire que nous ne l'examinerons pas, mais nous l'annoncerons. Nous l'annoncerons pour que les esprits commencent déjà à se préparer. La collaboration avec les autres mouvements de l'archidiocèse de Kinshasa, c'est parmi les objectifs, là, parmi les objectifs, c'est statutaire. Dans nos statuts, il est stipulé la coopération avec les autres mouvements que nous appelons des mouvements d'action catholique au niveau de l'archidiocèse. Ce sont des mouvements, bien sûr, d'action catholique, mais avec des charismes variés. Et donc, il est prévu dans nos statuts la coopération avec ces différents mouvements. Et nous le faisons. La preuve, c'est que nous sommes sur la plateforme CALCC. CALCC, je crois que vous le savez, nous sommes là-dedans. Et c'est CALCC qui coordonne. Donc, sous le plan de la coopération avec les autres mouvements, nous y sommes.
Voilà, 081 99 66 098. Je prends la question d'Arsène qui désire connaître la mission principale des mouvements des professeurs catholiques en République démocratique du Congo. C'est quoi votre mission?
Ben, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'était pas encore connecté, que la mission, c'est ce que j'ai appelé l'objectif global. L'objectif global du mouvement, c'est l'évangélisation en milieu universitaire. L'évangélisation en milieu universitaire. J'ai rappelé que dans nos milieux d'enseignement supérieur et universitaire, il y a une attitude de foi, pour ne pas parler de secte. Nous sommes des catholiques qui croyons en Dieu, en l'Évangile. Nous professons cette foi. La mission du MPC, c'est justement d'évangéliser afin que nos étudiants, et même nous-mêmes d'ailleurs, les enseignants, que nous ne perdions pas ou que nous n'allions pas à côté de notre foi. La Bible nous rappelle, nous dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais comment voulez-vous confirmer que vous êtes sel et lumière du monde lorsque dans votre comportement vous incarnez ce que le commun des mortels appelle les antivaleurs? Les antivaleurs sont multiples dans notre société et les milieux universitaires ne sont pas épargnés. Plusieurs fois nous avons entendu parler des points sexuellement transmissibles, par exemple. Plusieurs fois, nous avons entendu parler la famille d'abord. Plusieurs fois, nous avons entendu parler de vous n'achetez pas le syllabus, vous n'avez pas de points. Ça fait partie des antivaleurs, mais qui ne sont pas recommandables. Parce que la parole de Dieu nous recommande l'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, un professeur ne va pas contraindre une étudiante à ne réussir que par cette voie-là. Pour élargir le cercle, un professeur ne va pas conditionner les étudiants à ne réussir que s'ils achètent absolument le support ou le syllabus. Nous ne perdons pas de vue que les étudiants que nous avons, ils sortent de nos familles. Et nos familles ne sont pas, toutes les familles n'ont pas le même pouvoir d'achat. Et il n'est pas dit que c'est parce qu'un étudiant a absolument acheté un syllabus qu'il connaît la matière. Moi, je l'ai dit, il y a des étudiants, des familles modestes, intelligents, et d'ailleurs, certains génies, c'est là qu'on les déniche. Un étudiant comme ça, il peut avoir d'autres mécanismes pour. Il assiste au cours,
il prépare ses examens et il réussit. Vous n'allez pas dire, parce qu'il n'a pas acheté le syllabus, qu'il n'a pas bien répondu aux questions. Ou bien vous mettez sa feuille de côté. Ça fait partie des antivaleurs. L'évangélisation a fin, autrefois on disait, de lutter contre les antivaleurs. Plutôt que de continuer à lutter contre les antivaleurs. Parce que apparemment, les antivaleurs, on a l'impression que les antivaleurs sont plus fortes que les personnes qui luttent contre elles. Que plutôt que de lutter contre les antivaleurs, allons plutôt dans la direction de la promotion des valeurs. Plutôt que de continuer à lutter contre les antivaleurs, allons dans la direction de la promotion des valeurs. En promouvant les valeurs, et les collègues et les étudiants verront en nous réellement la lumière et le sel du monde. Voilà.
Mais professeur, j'aimerais que nous restions un peu dans la pratique parce que je suis étudiant aussi. Vous parlez de l'évangélisation. Vous, en tant que professeur en milieu universitaire, comment évangéliser? Un professeur évangélisé, comment ça se passe?
Ok. Comment ça se passe évangéliser en milieu universitaire? Les lectures bibliques, tous nous les suivons. Nous allons dans les messes. Et à la maison, nous lisons les textes. C'est une très bonne chose. Mais évangéliser dans les milieux universitaires, ce n'est pas que les professeurs vont se transformer en nos pères spirituels pour aller avec des bibles et commencer à prêcher. Évangéliser dans les milieux universitaires, ici, consiste à vivre l'évangile, à montrer que l'on vit l'évangile par les actes. Je viens de citer quelques-uns ici. Quand je dis, par exemple, un professeur catholique ne doit pas être vu comme celui qui vend les points. Ça, c'est concret, non? Un professeur catholique ne doit pas être vu comme celui qui forme ou qui initie les étudiants dans une autre foi. C'est concret, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup, des exemples comme ça. Connaître la parole de Dieu est une chose, la vivre et montrer que l'on vit, en ce moment-là, on devient une référence. Et de cette manière, nous pouvons espérer mettre nos étudiants dans une contribution positive pour le développement de notre nation.
Voilà, 081 99 66 098. Nous sommes en direct avec les professeurs Simo Kidiamboko, qui est président diocésain des président diocésain du mouvement des professeurs catholiques en République démocratique du Congo. On va prendre un message. Je prends bonjour Bob, bonjour Monsieur Simon Bosso et ingénieur Simon. On vous appelle déjà ingénieur, donc c'est la vie dire que vous êtes ingénieur.
Oui, je suis docteur ingénieur.
Ça, voilà. Quelle est la différence qui existe entre un PC et les MIEC? C'est Sylvain Pouyébé depuis Matadi.
Merci beaucoup pour cette question. Comment il s'appelle?
Sylvain Pouyébé, depuis Matadi.
Je salue Sylvain. La différence entre le MPC et le MIEC, c'est que le MPC, c'est les membres sont les professeurs catholiques dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Et je dis bien enseignants. Parce que beaucoup de gens ne se connaissent pas la structure du corps enseignant à ce niveau-là, de supérieur et universitaire. Il y a le corps académique et le corps scientifique. Le corps académique, ce sont les professeurs. Le corps scientifique, ce sont les chefs de travaux et les assistants. Le MPC, en réalité, on devrait changer la dénomination pour que ça paraisse visiblement. C'est-à-dire que le MPC, ce sont les enseignants catholiques dans les institutions d'enseignement supérieur universitaire. Les membres, ce sont les professeurs, les chefs de travaux et les assistants. Le MIEC, c'est le Mouvement international des étudiants catholique. Nous, au MPC, nous considérons le MIEC comme notre pépinière. Notre pépinière, pourquoi ? Parce que les membres du MIEC, qui sont des chrétiens catholiques, aux études, collaborent avec le MPC. Et lorsque ces étudiants qui sont membres du MIEC sont bien formés, ici la formation, je l'ai dit, je pense à un moment donné, et je le répète, c'est sur les deux dimensions. La dimension scientifique et la dimension spirituelle. Et donc, quand ils terminent leurs études, ils ont conscience, pendant qu'ils étudient, qu'ils doivent donner des bons résultats. Les bons résultats, ça signifie quoi ? Ça signifie la condition pour être, quand on a terminé, engagé assistant, c'est d'avoir fait une série de distinctions pendant le cursus. Et donc, les étudiants qui sont membres du MIEC sur le plan scientifique, le sachant et vivant à côté des professeurs, vont travailler pour arriver à satisfaire à cette condition-là et être engagé dans le corps enseignant de l'enseignement supérieur et universitaire. Et donc, en ce moment-là, ils entrent dans le MPC. C'est donc notre pépinière. Donc, la collaboration entre le MPC et le MIEC est de inciter les membres du MIEC à intérioriser leur formation sur les deux dimensions. C'est donc notre pépinière.
Très bien. Mais vous avez parlé des antivaleurs dans les milieux universitaires. Je ne m'attaque pas à vous. Je parle devant le président. Vous avez parlé des antivaleurs. Vous, MPC, est-ce qu'il vous arrive aussi de dénoncer à ces antivaleurs? Souvent, on vous accuse, vos professeurs des mouvements professeurs catholiques, vous abandonnez souvent les étudiants catholiques à l'air triste et sort.
Alors, j'ai parlé de l'objectif global du MPC, consiste en l'évangélisation des milieux universitaires avec corollaire. J'ai parlé de la lutte contre les antivaleurs, je vais y revenir, avec changement de paradigme, la promotion des valeurs. J'ai cité quelques-unes de ces antivaleurs. La question que vous posez, on nous accuse de promouvoir les antivaleurs plutôt que de lutter ou de faire le contraire, c'est-à-dire promouvoir les valeurs. Nous sommes des êtres humains. Je ne veux pas dire ici que moi je suis saint et je ne veux pas non plus dire que les collègues professeurs, les autres, sont des saints. Sinon, nous n'irions pas à la confession. L'objectif du MPC, que les professeurs catholiques vivent l'évangile. Vivre l'évangile, ça signifie que l'on suive les recommandations de Dieu. Certains des collègues peuvent, par moment, tomber dans la tentation. Mais le MPC ici est là pour essayer de remettre dans la bergerie certains collègues qui seraient en dehors de la bergerie. La bergerie, c'est ça, le MPC. Des actions sont menées dans ce sens-là. Donc, je dis, il n'y a pas de saint, mais nous aspirons tous. Et donc, revoir notre comportement lorsque nous savons que nous sommes dans le mal, que nous puissions nous corriger. Et la correction, elle se fait en interne. Moi qui vous parle, je n'ai jamais hésité à parler à un collègue quand j'apprends qu'il est dans les antivaleurs. Moi qui vous parle, je n'ai jamais hésité.
Très bien. Nous allons écouter une réaction. Papa et enceinte Djogolo.
Bonjour professeur, bonjour frère Simon, bonjour Bob. Mes questions portent sur l'objectif principal poursuivi par le MPC. Je crains que ce ne soit qu'une simple question identitaire qui ne se serait pas posée quand l'UNIKIN était l'université catholique de Louvagnon, qui ne devrait pas se poser aussi à l'université catholique de Kinshasa, qui pourrait maintenant être nécessaire pour les universités protestantes et même l'UNIKIN qui est devenue simplement nationale. Comment adhère-t-on ? Quels sont les critères pour qu'un professeur soit admis ? on ira jusqu'à la carte de baptême ou bien à l'observation de sa vie sociale.
Il n'a pas fini, si possible, terminer votre question. Du moins, vous avez compris la question de Papa Yansinta Djogolo, sa question.
J'ai compris sa préoccupation, c'est au niveau de l'adhésion au MPC. Comment on adhère au MPC? Le MPC est un mouvement qui est ouvert à tous les professeurs catholiques, ceux qui se reconnaissent catholiques.
Les enseignants.
Ne se reconnaît catholique que quelqu'un qui, effectivement, a eu tous ces sacrements. Nous n'examinons pas des dossiers de qui que ce soit pour vérifier qu'il a effectivement reçu tous les sacrements. Nous constatons que notre collègue est avec nous dans les célébrations eucharistiques parce que dans chaque institution d'enseignement supérieur, il y a une aumônerie catholique. Les enseignants, comme je disais, qu'ils soient professeurs, chefs de travaux ou enseignants, sont censés être connus de l'aumônier ou des collègues. Tout celui qui se reconnaît catholique et qui est enseignant dans une institution d'enseignement supérieur ou universitaire est membre de droit. Il n'y a pas une lettre de demande d'adhésion à faire ou quoi que ce soit. Il est membre de droit. Tout ce que nous demandons, c'est que dès lors qu'il s'est présenté de lui-même ou qu'on l'a sensibilisé pour qu'il vienne dans le mouvement, qu'il essaie dans la mesure du possible de honorer son engagement.
Écoutons Joseph Desmarais.
Bonjour Bob, bonjour cher professeur et merci beaucoup pour votre exposé si pertinent. Hein. Voici mes préoccupations. Puisque vous dites que votre mouvement de professeurs catholiques a pour mission de lutter aussi contre les sciences occultes ou les sciences exotiques, exotériques dans les milieux universitaires. D'où ma question. C'est quoi une science occulte ou exotérique dans un milieu scientifique ou universitaire où nous voyons que le savoir est à la portée de tous les étudiants, néanmoins ceux qui ont payé leur minéval, donc ils ont droit d'apprendre. Quelle différence faites-vous entre une science occulte et une science tout court donnée dans nos universités? Ma deuxième question, puisque vous avez évoqué le danger des sciences occultes dans les milieux universitaires. Quid de l'Opus Dei que vous connaissez, j'espère, parce que vous êtes catholique. Quid de l'Opus Dei dans les milieux universitaires? L'Opus Dei, qui est une congrégation catholique bien sûr, est souvent accusé de pouvoir recruter l'élite au sein des étudiants. Rien que les élites dans un secret occulte. L'Opus Dei est souvent critiqué pour son élitisme perçu, son caractère secret, occulte, qui est un peu louche. Et cela a été témoigné par les anciens étudiants membres de cet organisation. Et bref, dans votre mouvement de professeurs catholiques, comment voyez-vous l'Opus Dei dans ces milieux-là? Et enfin, qui dit mouvement de professeurs catholiques dit automatiquement l'exigence de la foi catholique dans les milieux universitaires. D'où ma question. Comment conciliez-vous ou comment concilier le caractère propre de l'enseignement catholique avec les exigences de la laïcité dans la RDC? Parce que la RDC, c'est d'abord un pays laïque. Mais vous venez avec le mouvement pour dire non, l'enseignement doit beaucoup plus porter aussi sur un caractère catholique. Et comment se fait-il que l'université soit un lieu de première annonce de la foi catholique, alors que nous connaissons tous que l'université est d'abord un lieu de première annonce de la science? Merci beaucoup, cher professeur.
Voilà, professeur. Mettez les bouchées doubles, hein, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes pour finir l'émission.
Ok. Et comment il s'appelle?
Joseph Desmarais.
Merci, Joseph, pour vos questions. Je ne suis pas seul hein, dans ce studio où nous réfléchissons, où nous partageons cette question. Je pourrais revenir à la laïcité, mais je voulais céder la parole au collègue Mbosso pour qu'il
vous parlez un peu de la différence, vous avez dit, entre les sens occultes et autres, et puis de l'Opus Dei, s'il a quelques éléments.
Bonsoir, bien sûr, parce que j'ai en face de moi dessus.
Merci, professeur, de me céder la patate chaude. Bon, très brièvement, je crois que les sciences occultes ou ésotériques sont connues comme des sciences qui sont fondées de secrets où des gens n'adhèrent pas publiquement, comme nous adhérons dans une église, comme nous sommes catholiques, tout s'est fait au grand jour, et où il y a des initiations particulières avec des engagements qu'on prend de ne pas divulguer les choses qui se passent là-dedans. Et personnellement, j'ai été dans l'encadrement de mouvements d'obédience chrétienne, aussi bien les miens que les groupes bibliques universitaires. Donc là, le professeur Simon voulut dire clairement qu'il y a des professeurs qui conditionnent la réussite des étudiants par leur appartenance à des loges ou à des structures qu'eux, ils animent. Des facultés où il y a donc ces genres de pratiques-là. Et nous, comme catholiques, comme enseignants catholiques, si, quand nous faisons l'évangélisation, quand nous parlons d'évangélisation à un milieu universitaire, nous essayons de défendre les valeurs qui nous sont les nôtres dans les milieux universitaires, donc les valeurs chrétiennes et qui sont fondées sur l'amour, la justice, la vérité, le pardon. Tout en étant un état laïque, les religions sont acceptées, les mouvements, les églises fonctionnent dans les milieux universitaires. Nous avons à l'Inikin Nodassa, nous avons une paroisse universitaire qui est là, avec la Benji là aujourd'hui comme curé. Nous avons quand nous-mêmes nous étions étudiants, nous avions toujours des aumôniers. Le Monseigneur Manziri a été notre aumônier, même quand le président Mobutu nous avait enrôlé dans l'armée. Monseigneur Manziri, qui est encore prêtre jésuite, aumônier, est venu volontairement se faire enrôler dans l'armée pour accompagner ses brebis qui avaient été enrôlés dans l'armée. Donc là, c'est une question dans un état laïque qui accepte la foi, les églises, chaque église qui est présente, et nous, c'est l'église catholique, l'église chrétienne, nous sommes appelés donc à défendre des valeurs que nous professons à travers l'évangile de Jésus-Christ. Je ne connais pas bien, j'entends parler de l'Opus Dei, je ne la connais pas, donc je ne peux pas en parler. Malheureusement, je sais que c'est une organisation qui fait partie de l'Église catholique. Je ne sais pas si ils ont des pratiques secrètes, donc je ne suis vraiment pas du tout habilité à en parler.
Effectivement, concernant l'Opus Dei, je pense que c'est mon point de vue est le même que celui du frère Mosso. Je ne connais pas grand-chose sur Opus Dei, donc bon, on pourrait en parler peut-être plus tard, hein, et à la limite peut-être être sur le plateau avec eux, mais bon, nous savons que c'est une structure, comme l'a dit le Mosso, c'est une structure de l'Église, enfin disons une branche de l'Église catholique.
Permettez-moi d'être une bouffée d'oxygène pour vous, parce que j'ai reçu ici, là où vous êtes, un prêtre de l'Opus Dei, et en tant qu'animateur d'une émission qui parle des livres, il avait écrit, et je lui ai posé la question, on vous acquise de ça, 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 il a été clair. D'ailleurs, l'Opus Dei est connu, est reconnu officiellement par le Vatican. Il a dit ça ici. Donc, c'est un mouvement ou bien une organisation catholique reconnue officiellement par l'Église, fondée en 1928 par José Maria. Donc, reconnue officiellement par le Vatican. Donc, si le Vatican reconnaît cette Église, ça veut dire que j'ai été récemment d'ailleurs invité pour une conférence, mais quand je publiais, les gens ont dit, mais toi, tu parles là-bas. Alors, ce n'est même pas ça. Voilà pourquoi j'avais dit au prêtre. Il faut de temps en temps expliquer aux gens, passer aux médias pour que les gens comprennent. Voilà un peu.
Alors, pour aborder la deuxième préoccupation, l'imposition de la foi catholique dans les milieux universitaires, nous ne disons pas que nous imposons la foi catholique dans les milieux universitaires. Nous disons que nous faisons la promotion de la foi catholique dans les milieux universitaires parce que nous y croyons. Mais dans les milieux universitaires, il n'y a pas que les aumôneries catholiques. Il y a aussi des aumôneries protestantes, il y a des aumôneries musulmanes, il y a des aumôneries kimbanguistes également, il y en a. Ce que nous faisons, c'est
promouvoir la foi catholique, vivre l'évangile que nous, l'évangile, la foi à laquelle nous, catholiques, nous croyons, et cherchons également à faire en sorte que même ceux qui ne sont pas catholiques, qu'ils vivent la parole de Dieu. Parce que l'évangile catholique, je ne pense pas que l'évangile des protestants autorise de tuer, autorise de, les enseignants à monnayer les cordes, ainsi de suite. Les musulmans, c'est pareil. Donc, ce qui nous rassemble, c'est là où nous faisons la promotion. Et nous croyons à la foi catholique, c'est pour ça que nous parlons de l'évangélisation en milieu catholique. Si les protestants peuvent faire la même chose, évangéliser...
Il y a le passé site qui est au monde universitaire.
Il y a aussi des mouvements.
Il y a aussi des mouvements.
Protestants, bien sûr.
Voilà. En fait, nous voulons seulement que, que nous, les enseignants, que nous soyons protestants, catholiques, tout ce qu'on veut, mais que nous puissions vivre l'évangile tel que Dieu nous recommande, nous aimer, et ainsi de suite, et puis construire... pour ne pas dire reconstruire ce monde, parce que le monde il a été créé pour que l'être humain vive correctement, mais nous-mêmes, nous sommes en train de l'amener pour la misère du peuple, de la population. Mais nous voulons, dans la mesure du possible, corriger les choses.
Voilà, nous prenons cette dernière question. Il est temps pour nous d'établir les liens pour voyager à Lubumbashi. Mais déjà, il y a Jonathan qui dit « Bonjour, je suis membre de l'Opus Dei. En 1982, le Vatican lui a donné un statut particulier de la prélature personnelle, ce qui signifie qu'elle dépend directement du pape et qu'elle n'est pas liée à un territoire spécifique, mais aux personnes qui choisissent d'en faire partie. » Donc, il dit « ce n'est pas ce que les gens pensent. » Merci, cher docteur. Jonathan. On prend ces messages rapidement, on va finir l'émission. Bonjour au professeur et au journaliste Bob. Comment est structuré les MPC étant un mouvement catholique actuellement, les MPC est présent dans combien de paroisses? Et la dernière question, quelle relation existe entre l'Union mondiale des enseignants catholiques et les MPC? Rapidement, professeur.
Oui, merci. Pour ce qui est de l'architecture du MPC, je l'avais dit au début, le MPC est organisé en assemblée générale et il y a le comité diocésain parce que nous sommes dans l'archidiocèse de Kinshasa, on n'est pas encore national. Et puis il y a des sections. Le MPC n'est pas dans les paroisses. Le MPC est dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Ce n'est pas dans les paroisses.
Très bien.
Mais évidemment, nous sommes en train de voir dans quelle mesure... dans certaines paroisses, il y a beaucoup de professeurs, mais qui ne vont pas dans les sections qui sont attachées à certaines paroisses. Et nous voulons voir dans quelle mesure créer des sections MPC pour des paroisses spéciales comme celle-là.
La relation entre l'Union mondiale des enseignants catholiques et les MPC, rapidement.
Alors, c'est vrai, l'Union mondiale des professeurs catholiques existe. Nous avons dit ici que nous sommes encore au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, donc même pas encore au niveau national. Et quand nous aurons réfléchi sur d'abord le plan national, après nous verrons... c'est normal que nous puissions collaborer avec eux. Mais il faut que nous ayons ce que nous allons leur dire, ceux qui sont au-dessus là. Donc nous devons nous organiser à notre niveau.
Merci, merci beaucoup. Et les coachs, vous avez quelque chose à dire?
Oui, il y avait une pensée pieuse pour des proches qui nous ont quittés. Docteur Chantal Nzei, qui est présidente honoraire de la Radio Maria, l'ambassadeur Faustin Kama, un grand frère à moi, et Madame Léopoldine Kindwelu, l'épouse de notre frère Papa Kindwelu, qui nous a quittés hier, qu'à tous les seigneurs puissent les accueillir dans la félicité éternelle. Merci, professeur. Je voulais dire que à l'Assemblée générale de samedi, à 9h30, à la chapelle de l'UCC et à la messe présidée par le cardinal, tous les professeurs catholiques sont invités. Pour tous ceux qui nous suivez, venez nombreux pour venir vous associer à notre rencontre, à la messe et à l'assemblée.
Merci, merci beaucoup, merci infiniment, cher professeur. Je rappelle que vous êtes président diocésain du mouvement des professeurs catholiques en République démocratique du Congo. Vous allez revenir dans 2 semaines, je pense bien, pour nous parler d'un sujet aussi pertinent encore, parce que vous l'avez dit au début, vous êtes expert en... intelligence artificielle. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à Radis Moussanda qui nous accompagne de l'autre côté. On vous fixe rendez-vous très prochainement. Cette émission à retrouver sur le site web des Radio Maria, www.radiomaria.cd. Au revoir.
Une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30.